Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 30 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sebulia. Les titres pour commencer, le transport aérien menacé de perturbations en République centrafricaine en raison d'un risque de rupture de carburant à l'aéroport international de Bangui. RCA toujours, la force de l'ONU assure avoir repris la ville de Ouanda Diallé aux rebelles. Au Burkina Faso, une première. Une sortie d'influents chefs traditionnels sur la situation sécuritaire du pays. Un reportage de Lamine Traoré en seconde partie. Le Soudan se prépare à une journée de mobilisation anti-putsch. L'OTAN promet de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à la cruauté de la Russie. Vladimir Poutine dénonce ce qu'il appelle les ambitions impérialistes de l'Alliance qui cherche à affirmer son hégémonie. Ce sera en seconde partie de cette édition. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le transport aérien menacé de perturbations en République centrafricaine, le pays pourrait faire face d'ici au 2 juillet à une rupture de carburant à l'aéroport international de Bangui. L'inquiétude monte dans le pays. Les détails avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'alerte a été donnée par le géant pétrolier français Total. Principal fournisseur de la République centrafricaine en carburant, Total Energy a informé les autorités aéroportières à travers une correspondance officielle. Les difficultés d'approvisionnement en jet A1 à l'international se poursuivent et le dépôt aviation de Bangui Poco tombera en rupture de produits à partir du 2 juillet 2022. A prévenu le groupe pétrolier dans sa correspondance. Cette lettre, qui circule déjà sur les réseaux sociaux, suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les centrafricains qui craignent une probable perturbation, non seulement des vols internationaux à destination de Bangui, mais aussi des vols locaux opérés par les avions humanitaires. Officiellement, les autorités centrafricaines n'ont pas encore réagi à cette alerte. Cependant, face à la pénurie des hydrocarbures qui frappe depuis plusieurs semaines le pays, le gouvernement serait en train de mettre en place un plan de ravitaillement en carburant, nous a indiqué une source au ministère de l'Énergie. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
RCA toujours, et selon l'ONU, des casques bleus rwandais et zambiens de la MINUSCA, sa mission de maintien de la paix, ont combattu et repoussé des rebelles hors d'une ville du nord-est de ce pays en guerre depuis 9 ans. La MINUSCA, dont un responsable parle de 2 rebelles tués, affirme avoir agi dimanche en vertu de son mandat de protection des civils dans cette ville de Ouanda Diallé, à plus de 800 kilomètres au nord-est de Bangui. Mais la rébellion de la CPC, Coalition des Patriotes pour le Changement, a accusé en retour la MINUSCA, je cite, de combattre aux côtés des mercenaires russes de Wagner et de milices alliées aux forces centrafricaines, contrevenant à son obligation de neutralité. Fin de citation. Au Burkina Faso, selon la ministre de la Communication, Valérie Kabore, l'armée a libéré le ressortissant polonais Bednarski Rafal Kamil, dont l'enlèvement en avril dans l'est du pays par des djihadistes présumés n'avait pas été rendu public. Les conditions de sa libération n'ont pas été précisées. Au Sénégal, l'opposition a renoncé mercredi à ses manifestations contre le pouvoir interdites par les autorités et annoncé qu'elle participerait finalement aux élections législatives du 31 juillet dans un souci d'apaisement après les heurts meurtriers du 17 juin. La tragédie de Melilla continue de susciter des réactions dans le monde. Elle a coûté la vie à au moins 23 migrants africains qui avaient tenté de pénétrer dans l'enclave espagnole au Maroc le 24 juin. Nathalie Barge.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a dit déplorer la mort de ces migrants et a promis que son gouvernement apporterait une collaboration totale avec toutes les enquêtes. Auparavant, il avait encensé le travail des forces espagnoles et marocaines pour avoir repoussé le 24 juin quelques 2000 migrants africains qui tentaient d'entrer à Melilla de force. Selon Rabat, les 23 victimes ont péri dans des bousculades et en chutant du haut de la grille métallique qui sépare le Maroc de Melilla lors d'un assaut marqué, selon les autorités marocaines, par l'usage de méthodes violentes de la part des migrants. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit choqué par la violence, ajoutant que l'utilisation excessive de la force est inacceptable. Des vidéos et des photos montrent des corps jonchant le sol, des membres des forces marocaines frappant des gens et la garde civile espagnole tirant des gaz lacrymogènes sur des jeunes hommes accrochés à des grillages, a résumé hier Human Rights Watch, qui demande une enquête impartiale et indépendante.
RDC, notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila, nous signale que le marché de la commune de Kamalondo a été ravagé par un incendie qui s'est déclaré vers 23h heure locale hier mercredi. On ignore l'origine de cet incendie. Le bilan provisoire fait état de 3 personnes souffrant de brûlures graves. Les militants pro-démocratie au Soudan promettent des manifestations monstres ce jeudi pour obliger l'armée à rendre le pouvoir aux civils après le putsch militaire d'octobre qui a plongé le pays dans le marasme politique et économique. Les forces de sécurité se sont déployées en prévision des défilés sur divers ponts et artères de Khartoum et de ses banlieues, faisant redouter de nouvelles violences aux pro-démocratie qui comptent déjà plus de 100 morts et des milliers de blessés dans leur rang du fait de la répression, selon des médecins.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden a remercié hier son homologue turc Recep Tayyip Erdogan d'avoir levé la veille son veto à un élargissement de l'OTAN, tandis que Washington a affirmé soutenir Ankara sur le contentieux de l'achat d'avions de combat, Clermont et Gibourg.
Je veux vous remercier pour ce que vous avez fait pour arranger la situation en ce qui concerne la Suède et la Finlande et pour l'incroyable travail que vous faites pour faire sortir des céréales d'Ukraine, a dit Joe Biden au président turc en marge du sommet de l'OTAN à Madrid. Un peu plus tôt, une responsable du Pentagone avait assuré que les États-Unis soutenaient pleinement une modernisation par la Turquie de sa flotte de F-16 qui contribue à la sécurité de l'OTAN et donc à la sécurité des États-Unis. Avant de partir pour Madrid, le président Recep Tayyip Erdogan avait souligné que le sujet le plus important entre Ankara et Washington était celui des F-16, une affaire d'achat d'avions qui empoisonne depuis des années les relations entre les États-Unis et la Turquie. Washington a toutefois assuré n'avoir pas fait de concessions particulières pour que la Turquie lève son veto concernant l'entrée de la Finlande et de la Suède au sein de l'OTAN.
Amnesty International estime que le bombardement le 16 mars du théâtre de Mariupol en Ukraine est clairement un crime de guerre russe. Des centaines de civils innocents s'y étaient réfugiés et le mot « enfant » était écrit en grandes lettres blanches devant le site. C'est ce qu'affirme ce jeudi dans un rapport l'ONG qui ajoute que le nombre de victimes est toutefois largement inférieur à ce qui était craint. Les États-Unis se sont dit déçus des échanges menés indirectement avec l'Iran depuis mardi à Doha, où aucun progrès n'a été fait vers un retour dans l'accord sur le nucléaire, selon Washington, qui estime ce cycle d'échanges achevé. Les États-Unis et les talibans au pouvoir en Afghanistan doivent discuter ce jeudi à Doha d'un mécanisme permettant de débloquer des fonds après un séisme meurtrier dans le pays. Washington veut s'assurer de leur utilisation à des fins humanitaires. Des centaines de policiers ont été déployés mercredi à Udaipur, dans l'ouest de l'Inde, au lendemain du meurtre présumé d'un hindou par 2 musulmans en représailles à des déclarations polémiques sur l'islam par une militante du parti au pouvoir. Aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ex-dictateur du même nom, a prêté serment ce jeudi en tant que président, concrétisant ainsi le spectaculaire retour en grâce de son clan passé en moins d'une génération de l'opprobre au pouvoir suprême. La star américaine déchue de R&B, R. Kelly, reconnue coupable en septembre 2021 à New York d'avoir piloté pendant 3 décennies un système d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes, a été condamnée mercredi à 30 ans de prison. La Minute Éco, Clermont-Régibourg.
En Côte d'Ivoire, les ressources du secteur pétrolier représentent 5% du PIB, a indiqué hier le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Koulibaly. Une contribution largement en dessous de nos ambitions, a déploré le ministre, qui s'est toutefois réjoui, note l'agence APA, des remarquables progrès réalisés au cours de la dernière décennie dans le secteur de l'électricité. Le FMI vient d'approuver un décaissement de 96 milliards de francs CFA au titre du mécanisme élargi de crédit pour le Gabon. Financial Afrique précise que ce décaissement est intervenu suite aux progrès réalisés par Libreville, qui a pu satisfaire 11 des 14 réformes structurelles exigées par le FMI dans l'accord triennal signé en 2020. L'ambassadeur des États-Unis à Tripoli, Richard Norland, a mis en garde hier les protagonistes libyens contre l'utilisation du pétrole comme arme dans leurs querelles politiques. La production pétrolière, principale source de revenus de la Libye, est depuis mi-avril l'otage des rivalités de groupes avec de nombreux sites fermés.
Merci Claire. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Romelu Lukaku de retour à l'Inter Milan.
Oui, l'attaquant belge revient à l'Inter Milan, prêté au Nerazzurri pour une saison par le club londonien. Ont annoncé les deux clubs. Fer de lance de l'Inter, sacré championne d'Italie en 2021. Le puissant buteur de 29 ans revient à Milan avec l'espoir de se relancer après une saison mitigée à Londres à quelques mois du Mondial 2022. Et après avoir vendu Romelu Lukaku pour quelques 115 millions d'euros aux Blues, l'Inter va l'accueillir pour une saison contre une indemnité de 8 millions d'euros hors bonus supplémentaires liés aux résultats selon des médias anglais et italiens. En 2 ans à l'Inter, Lukaku avait inscrit 64 buts en 95 matchs.
Thiago Silva espère que Neymar le rejoindra à Chelsea.
Le défenseur brésilien de Chelsea aimerait voir son superporte Neymar le rejoindre au club londonien. Si la rumeur du départ de l'attaquant du Paris Saint-Germain devait se concrétiser, qu'il vienne à Chelsea, s'il doit partir, il faut qu'il aille là-bas, a déclaré Thiago Silva. Neymar, 30 ans, a prolongé en mai 2021 son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, mais les rumeurs de départ ont pris de l'ampleur depuis des déclarations du président du club Nasser Al-Khelaifi. On ne veut plus du flashy, du bling-bling, c'est la fin des paillettes, a déclaré Al-Khelaifi, faisant allusion au style de vie souvent décrié de Neymar. Le Brésilien a réalisé en 2021-2022 sa saison la moins prolifique sur le plan individuel, avec 13 buts et 8 passes décisives en 28 matchs, toutes compétitions confondues, avec le Paris Saint-Germain.
Basketball, Russell Westbrook va exercer son option aux Lakers.
L'arrière des Los Angeles Lakers, qui sort d'une saison difficile, a décidé d'exercer son option pour rester dans l'effectif de la franchise californienne la saison prochaine. À 33 ans, Russell Westbrook va entamer la 5e et dernière année de son contrat de 5 ans à 206 millions de dollars. Le meilleur joueur NBA de la saison régulière en 2017 a joué pour 4 franchises différentes ces 4 dernières saisons, Oklahoma, Houston, Washington, puis les Lakers depuis août 2021. La saison passée en 78 apparitions sous le maillot des Lakers, Westbrook a inscrit en moyenne 18,5 points par match, pris 7,4 rebonds et effectué 7,1 passes décisives. Les Lakers préparent la saison à venir avec un nouvel entraîneur, Darvin Ham, nommé début juillet pour succéder à Frank Vogel.
Tennis, Serena Williams battue pour son retour en simple sur le circuit.
Oui, après un an sans jouer de tournoi en simple, la superstar américaine a manqué son retour sur le circuit. À 40 ans, Serena Williams a été battue par la Française Harmony Tan 7-5, 1-6, 7-6 au premier tour de Wimbledon, septuple championne du majeur sur gazon. L'an dernier, Serena Williams avait quitté le tournoi londonien en cours de match, victime d'une blessure à une cuisse. Elle avait repris la compétition à la surprise générale la semaine dernière en double à Eastbourne, associée à la Tunisienne Ons Jabeur. Battue mais pas abattue, Serena Williams s'est déclarée motivée pour jouer l'US Open qui débute le 29 août. C'est dans ce tournoi américain que Serena Williams a gagné son premier titre de Grand Chelem. C'était en 1999.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est une déclaration historique sur la situation sécuritaire du pays. La première fois que des chefs supérieurs coutumiers et traditionnels réagissent quant à cette situation. Ils ont lancé un message de paix et de cohésion et interpellé les autorités de la transition, leur demandant de s'investir dans la lutte contre le terrorisme. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
À Ouagadougou, au palais du Moro Naba, empereur des Mossé, une grande mobilisation. L'ensemble des chefs coutumiers traditionnels du pays étaient présents pour cette déclaration. Ce sont des chefs supérieurs. L'heure est grave. La situation sécuritaire est inquiétante. Alors, ils ont décidé de réagir. Le Widi Naba, ministre du Moro Naba Bangogo, porte-parole des chefs coutumiers traditionnels.
En tant que dépositaire et garant des pouvoirs coutumiers traditionnels, incarnation de nos valeurs ancestrales, acteurs de l'histoire de notre pays, nous, chefs supérieurs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso, condamnons toute atteinte à la vie, à l'intégrité physique, morale et psychique de toute personne, quelle que soit sa race, son ethnie, sa religion, son appartenance politique et idéologique. Les propos haineux et d'incitation à l'intolérance et à la violence véhiculés à travers certains canaux de communication.
Selon ce responsable de Racine, une association qui œuvre à la réhabilitation des valeurs traditionnelles et à la valorisation des chefferies, c'est historique. Cette sortie des chefs traditionnels et coutumiers. Albert Ouedraogo, professeur de littérature orale à la retraite, secrétaire général de l'association Racine.
Il fallait qu'ils sortent de leur communautarisme pour s'ériger au niveau de la nation. Et c'est ce qui donne la valeur historique de cette déclaration, parce qu'aujourd'hui, ils ont parlé d'une seule voix vis-à-vis de ce qui traumatise, endeuille le pays. Et cette voix est forte. Elle interpelle les autorités, elle interpelle les populations de ne pas céder à la haine, de ne pas céder à la division.
Edmond Djigim Koudré est journaliste spécialiste des questions coutumières et traditionnelles.
Nous avons pu constater la présence de Sa Majesté le Moro Naba Bongo, de Sa Majesté le Roi de Zungurin Tenga, Naba Djigimpolé, Sa Majesté le Roi de Boussman, Naba Sigri et les autres chefs de canton, notamment le porte-parole du chef de canton de Bobo Dioulasso, il y a eu l'émir de Liptako, le chef de Diolgogi, le chef de canton de Pau et les différents ministres des rois. Cette rencontre, c'est un signal fort à l'endroit de nos dirigeants et à la population pour que nous puissions, main dans la main, vivre ensemble comme nos ancêtres l'ont fait.
Les chefs supérieurs coutumiers traditionnels ont interpellé les autorités du pays à concentrer leur énergie dans la lutte contre le terrorisme, le recouvrement de l'intégralité du territoire. Ils ont aussi interpellé les Burkinabés qui sont en armes à déposer les armes, à revenir à la raison et à la maison, ont-ils déclaré. Lamine Traoré, Ouagadougou. VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Le Nigeria risque de manquer de pain d'ici au 13 juillet si rien n'est fait pour résoudre la montée en flèche des prix de la farine et autres produits utilisés par les boulangeries. Plus de 400 000 boulangers menacent de suspendre leurs services à cause de l'augmentation sans précédent des prix de la farine suite à la guerre en Ukraine. Un reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
L'exercice est devenu de la routine pour ces jeunes vendeurs de pain, Jude Hassan. Il se lève tous les jours à 4h30 du matin pour aller à la boulangerie Bon Bread dans la zone industrielle d'Abuja pour récupérer son stock quotidien avant de faire le tour des clients. Mais ces derniers jours, son inquiétude est grande.
L'économie du pays en cette période n'est pas bonne. Si le prix du pain continue à grimper chaque mois et à certains moments deux fois dans le même mois, cela à cause des prix élevés des matériaux utilisés par les boulangeries. Pour nous, les distributeurs de pain, cela nous affecte sérieusement sur le marché local.
Beaucoup d'autres distributeurs de pain ont des problèmes similaires, comme Otto ou Bang Francis.
Les gens se plaignent lorsque nous amenons le pain sur le marché. Notre pouvoir d'achat a aussi considérablement diminué. Il n'y a plus d'achat comme avant à cause des prix élevés de tout sur le marché local. Mes clients qui achetaient avant avec moi entre 10 et 20 baguettes de pain ne le font plus à cause du prix élevé du pain. Ils ne prennent parfois que 5 seulement.
Le coût de la farine, du sucre et d'autres matériaux utilisés dans les activités des boulangeries ont grimpé en flèche au-delà de la portée de nombreux boulangers, obligeant certains à fermer les entreprises. Maria Cardillo est propriétaire de la boulangerie moderne Bon Bread.
What has happened mostly is that, of course, we experience.
Ce qui s'est passé surtout est que, bien sûr, il y a eu augmentation du prix de nos productions. Cela veut dire que notre capacité de stockage des matériaux de production a aussi diminué. La crise a aussi affecté nos moyens pour maintenir notre main-d'œuvre.
L'augmentation des prix des matériaux de boulangerie, en particulier la farine et le sucre, ont atteint des niveaux sans précédent. La farine se situe entre 25 000 naira, près de 60 dollars américains, et 27 500 naira, près de 66 dollars. Le syndicat des patrons boulangers exige des solutions. Ishak Abdul Rahim, président du syndicat des boulangers à Abuja.
Everything about us.
Tout ce qui nous concerne a augmenté de plus de 300%. Les prix de tous nos matériaux de travail ont grimpé à plus de 300%. Et l'autre aspect de la crise, à part des matériaux que nous utilisons, c'est les conditions difficiles de pouvoir faire des affaires librement. Il est devenu difficile pour nous de travailler. Premièrement, nous sommes confrontés au prix élevé des matériaux et ensuite, nous faisons face à la multiplication des agences du gouvernement.
Conséquence de la guerre en Ukraine, les prix du blé, déjà en forte augmentation ces deux dernières années, se sont envolés. Le syndicat des boulangers accuse aussi certaines agences du gouvernement de harcèlement, facturant ses membres des prélèvements scandaleux dans cette période très difficile de crise économique dans ces secteurs. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition, est secoué par des dissensions. À l'origine, les dernières nominations contestées par certains cadres du SDF, qui appellent à une réunion d'urgence du comité exécutif national du parti pour annuler les dites nominations. De Yaoundé, notre correspondant Jules Tape Emmanuel.
Le président régional du SDF, dans la région du centre, dont les activités couvrent, entre autres, la capitale Yaoundé, est parmi ceux qui remettent en cause les récentes décisions prises par le président national du Social Democratic Front.
La raison principale, c'est surtout les violations de nos textes. Quand on nomme les membres du NEC, quand on nomme les membres du Shadow, ces membres doivent au moins avoir fait 5 ans dans le parti. Et donc nous avons constaté que la plupart de ces nominations, d'aucuns n'avaient jamais fait partie du SDF.
Le nouveau ministre de l'Information et des Médias, du Shadow Cabinet du SDF, est l'une des personnes dont la désignation est contestée par certains cadres du parti.
Oui, je n'ai pas 5 ans de militantisme, je suis là depuis 3 ans. Oui, certains autres camarades dans ce chat de cabinet n'ont peut-être pas 5 ans, c'est vrai, mais le parti reconnaît et donne le pouvoir au président de nommer les membres du chat de cabinet. Il n'est mentionné nulle part que pour faire partie du chat de cabinet, il faut avoir 5 années ou alors qu'on vous demande votre carte de militant.
Les résultats du SDF lors des derniers scrutins sont décroissants. Le parti est passé de 18 députés en 2013 à 5 en 2020. Un congrès du SDF est prévu en février 2023 au cours duquel le président actuel John Fondi pourrait passer la main après 32 ans au poste.
Certains cherchaient déjà à placer des électeurs, sachant qu'ils seront des candidats. Certains qui ont des visées pour le futur cherchent maintenant à avoir des voix pour le futur congrès.
À ma connaissance, les camps n'existent pas au SDF et le seul camp, c'est le Parti national qui est dirigé par son Excellence le président John Fondé.
Et pourtant, dans les médias et même sur le terrain, les militants sont divisés sur le climat qui prévaut actuellement au sein du parti d'opposition.
Comme un être humain, il peut faire des erreurs. Et on a l'obligation de porter son attention qu'il a fait des erreurs. Et c'est ça qu'il s'agit.
Ce que son Excellence, le chairman John Fondé, a fait, c'est plus normal, c'est très normal quand on sent qu'il y a ralenti dans un groupe. Même dans la maison, il faut de temps en temps changer de pièce.
Deux jours après sa nomination à la tête de la commission judiciaire du SDF, l'avocat Félix Agbob Kongo a décliné l'offre. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'OTAN promet de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire face à ce qu'elle appelle la cruauté de la Russie. Lors d'un sommet à Madrid, les dirigeants de l'OTAN ont invité la Suède et la Finlande à adhérer à l'alliance militaire et considérer la Russie comme la menace la plus importante et directe contre la sécurité de ses membres, selon le concept stratégique révisé. Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine dénonce ce qu'il qualifie d'ambition impériale de l'OTAN qui cherche, selon lui, à affirmer son hégémonie via le conflit ukrainien. Eric Manirakidza a joint à Madrid un porte-parole du département d'État américain, John Pisowski.
C'était un jour très important. On voit clairement que l'alliance de l'OTAN a répondu aux défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. L'adhésion de la Finlande et le Suède, c'est important parce que ça va renforcer l'état de sécurité du territoire de l'alliance. Nous saluons ce développement. Et en même temps, je pense que la présence de ces quatre pays de la région Indo-Pacifique est importante parce que on peut voir l'unité de cette démocratie, de défendre aussi l'intégrité territoriale et souveraineté dans la région Indo-Pacifique.
Mais tous les membres de l'Alliance ne sont pas tous alignés sur la position américaine, notamment en ce qui concerne la région Indo-Pacifique.
Les alliés ont pu parler sur le sujet et on peut voir dans le cadre de la nouvelle vision stratégique de l'Alliance que on doit renforcer les territoires des pays alliés avant les menaces que nous voyons aujourd'hui.
Il y a le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui dit que l'OTAN a poussé pour élargir son champ d'action et que cela, c'est une façon de promouvoir une mentalité de guerre froide et inciter à la confrontation entre les blocs qui est impopulaire et vouée à l'échec.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette position. Depuis son existence, l'OTAN a toujours été une alliance défensive. Et nous voyons que les actions prises par l'Alliance répondent aux menaces qui viennent dans la situation actuelle. Et donc notre réponse, la réponse des États membres de l'Alliance est simplement de renforcer notre sécurité pour que plus d'agressions dans la zone.
Le concept stratégique qui a été révisé définit la Russie comme menace directe à l'alliance militaire. Est-ce que nous retournons à l'époque de la guerre froide, de l'époque soviétique.
Face à l'agression prise par Vladimir Poutine et la Russie contre le peuple ukrainien, et on voit comment cette agression va en contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes en 2022 et l'Alliance doit faire face aux menaces actuelles et aux défis que nous avons dans l'avenir. C'est très clair.
Joint à Madrid, John Psaki, un porte-parole du département d'État américain. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seludia, de Lionel Gahima et à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.